BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Il est 11h précisément et comme chaque jour à cette heure-ci, on file sur les marchés pour entamer la deuxième heure de BFM Patrimoine. Et c'est Sarah Thirion qui nous attend chez TP ICAP. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bon, dites donc, on ne sait pas quel sens se voit sur le marché. Un coup, on est juste en dessous, un coup, on est juste au-dessus du niveau de clôture d'hier soir et on n'a pas trop d'idées.
On n'a pas trop d'idées, on les avait surtout beaucoup anticipées ces idées. On a eu 2 mois de remontée des indices actions avec la perspective effectivement de voir la Fed notamment calmer l'ampleur de ces hausses de taux et la perspective de la réouverture progressive de la Chine. Et puis ces prédictions ou ces espoirs se sont pour partie avérés. On voit que la Chine allège un peu progressivement effectivement ses restrictions sanitaires. Mais on voit aussi que les choses ne se font pas d'un coup. Et d'autre part, effectivement, on a des indicateurs macroéconomiques qui restent très soutenus aux États-Unis, qui pourraient contredire, en fait, la perspective d'une accalmie sur le front de la normalisation des taux. On a eu, effectivement, donc une très bonne tenue du marché mensuel de l'emploi vendredi. On a eu hier une hausse des commandes à l'industrie aux États-Unis, bien que ce soit peu représentatif comme secteur au sein de l'économie américaine. Mais on a surtout vu hier une accélération de l'activité dans les services aux États-Unis en novembre. Et donc, on ne voit pas cette économie américaine s'effondrer. Et ce faisant, d'imaginer que finalement, la Fed puisse continuer sa normalisation, peut-être sur des rythmes importants. Donc, on a la prochaine réunion de la Banque centrale américaine la semaine prochaine. 14 décisions de la Fed, 15 décisions de la BCE. Et je pense que les marchés marquent aussi un peu une pause en attendant effectivement de voir comment les choses évoluent à la fois sur le front des banques centrales et en Chine.
Voilà donc pour le cadre dans lequel évolue le marché ce matin. Après, dans le palmarès, il y a une valeur dont on n'entend pas forcément tout le temps parler et que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas bien. On va donc en profiter puisque c'est la plus forte baisse de lundi du SRD ce matin. C'est Quadient. On est dans la relation client, c'est ça ? Et on perd 13,8%.
Ouais, c'est une société qui gère effectivement de l'expérience client, de l'automatisation des processus commerciaux et qui offre des solutions liées au courrier et la consigne de courrier. Malheureusement, dans des marchés comme aujourd'hui, les relèvements d'estimation annuelle sont parfois bien pris. Et en revanche, les déceptions sur les réalisations annuelles sont très sanctionnées. Le groupe a livré hier soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre qui, dans la masse, était finalement conforme, je crois, aux attentes du consensus puisqu'ils ont fait plus 1% en organique. Donc, c'était satisfaisant. Malheureusement, au sein de cette réalisation, les gens espéraient une amélioration de l'activité de Parcel Locker Solution qui, malheureusement, ne s'est pas concrétisé au troisième trimestre, qui restait en légère décroissance organique, souffrant à la fois de l'allongement des délais de construction de nouveaux logements résidentiels aux États-Unis et puis de décalage de projets de la distribution américaine de 2022 à 2023. Tant et si bien que le groupe a été contraint de revoir à la baisse ses guidance dans des proportions qui sont assez significatives, pas tant sur le chiffre d'affaires puisqu'il est attendu maintenant en croissance organique de 1% contre plus de 2% avant, mais surtout en fait sur le front de l'EBIT courant puisque le groupe tablette sur une croissance low to mid single digit de son EBIT courant et que finalement ce dernier va être en repli organique eu égard effectivement à la croissance plus faible qu'attendue effectivement de cette division sur la deuxième partie de l'année, mais aussi de l'inflation salariale et des investissements que le groupe doit matérialiser pour proposer de nouveaux produits, ce qui contribuera à la croissance future du groupe, mais qui pour l'instant pèse sur la rentabilité. Et donc la sanction est absolument immédiate et sans appel, même si le groupe a pourtant réitéré ses objectifs moyen terme 2021-2023, qui supposerait donc un redressement de la situation en 2023.
Merci beaucoup, Sarah. Donc, ce titre Quadiant qui, effectivement, fait partie des mauvais élèves ce matin. Bonnet d'âne pour Quadiant, 12,56€, moins 14,15% dans un marché qui, pour le moment, baisse un petit peu plus que ça n'était le cas il y a quelques minutes, moins 0,18 maintenant pour le CAC 6684 points. Sarah Thirion depuis Tipeee iCap. Et nous, on retrouve l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, l'Europe va manquer de gaz dans les années à venir. C'est le scénario du Shift Project mené par Jean-Marc Jancovici qui décrit une Europe au pied du mur en 2025. En cas d'arrêt prolongé des approvisionnements russes, c'est 40% de la demande européenne qu'il resterait à trouver en 2025. Le GNL ne devrait donc pas suffire, à moins que la consommation baisse en proportion. Et dans ce contexte, malgré la hausse des coûts de l'énergie, Saint-Gobain maintient son activité. Si ses factures en gaz et électricité vont augmenter de 5 milliards d'euros sur 2 ans, le groupe de construction et de verre se projette sur le long terme et multiplie les contre-feux face à la crise. Le directeur général Benoît Bazin était l'invité de Good Morning Business ce matin.
À la fois pour prendre des mesures temporaires de réduction, par exemple, de consommation dans nos bâtiments et des mesures de long terme. Puis dernier sujet, c'est une très bonne exécution opérationnelle. Beaucoup d'accompagnement de nos clients, ce sont beaucoup de petits artisans. Donc on les prévient à l'avance sur les hausses de prix. On les accompagne avec des devis fixes pendant un mois. On leur fait beaucoup de crédits, 1,5 milliard de crédits par exemple aux artisans en France aujourd'hui. Donc c'est beaucoup d'accompagnement de nos clients pour leur faire accepter et les aider à anticiper l'inflation et les hausses de prix.
Crédit Agricole ne financera plus de projets d'extraction de pétrole à horizon 2025. La banque prévoit aussi de se désengager totalement des centrales au charbon d'ici 2030-2040. Autre objectif, augmenter de 60% son exposition à la production d'énergie bas carbone. L'action de l'OL Group chute de près de 15% à sa reprise de cotation ce matin, signe de l'inquiétude des investisseurs sur son rachat par John Textor. Hier, le groupe a annoncé un ultime délai de 2 jours à la pour finaliser l'opération. Iliad lève 750 millions d'euros sur le marché obligataire, une opération menée pour refinancer une partie de sa dette bancaire. Cet emprunt a rencontré un vif succès avec une demande totale de près de 2 milliards d'euros selon le groupe. Et puis la chute de FTX aiguise l'appétit de Goldman Sachs. La banque américaine prévoit d'investir des millions de dollars dans les crypto-monnaies. Selon elle, il y a des opportunités de rachat et elle compte bien se positionner. C'est ce qui ressort d'un entretien d'un dirigeant de Goldman Sachs à Reuters, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot, que l'on retrouve chaque heure pour suivre l'actualité économique le matin. Et nous, on continue à vous donner un maximum de conseils et on ausculte notamment les marchés avec l'œil du stratège. C'est à suivre.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin de Mathieu Bailly. Bonjour Mathieu.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Octo AM. Alors il y a beaucoup de marchés. On peut citer par exemple Dow Jones, mais on pourrait citer aussi le CAC qui ont repris une 20% depuis leur plus bas, qui n'était pas si loin, hein, c'était au mois d'octobre. Ça veut dire que c'est un bull market. Vous validez, vous assumez le passage en bull market?
Alors, ce qui fait grimper là dans les dernières semaines, il y a plusieurs sujets. Après, en fonction de l'indice, c'est différent. Mais si on prend le CAC 40, par exemple, c'est essentiellement les banques qui sont plutôt des établissements qui profitent des hausses de taux. Et comme les taux sont censés rester un peu plus haut pendant longtemps, ça peut jouer favorablement. Après, vous avez quelques sociétés qui sont liées aux matières premières, dont Total, qui peut être un exemple aussi. Et donc ça tire un petit peu l'ensemble de l'indice. Et puis, La manière dont est faite les indices fait que les autres valeurs sont un petit peu tirées aussi. Et puis après, vous avez aussi un aspect un peu technique des marchés. On parle souvent du rallye de fin d'année qui est lié à un manque de liquidité, puis à un débouclement des positions, à certains qui soldent les positions avant le... Et là, c'est vrai que le marché a été tellement baissier toute l'année. On avait quand même toute une catégorie de gens qui n'étaient pas présents sur les marchés, que ce soit les investisseurs privés ou les institutionnels, qui ont été plutôt dans l'attente pendant beaucoup de mois. Ça a favorisé deux types de gestion. La gestion suivie de tendance. Alors, comme la tendance était à la baisse, ça amplifiait plutôt un petit peu les baisses. Et la gestion short. Vous aviez beaucoup d'établissements qui avaient shorté des actions et qui aujourd'hui à l'approche de la fin d'année, se disent on va déboucler. Donc déboucler une position short, c'est se racheter. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs aujourd'hui non plus. Quand vous êtes sur une action qui a un PER de 6, 7, 10, vous n'avez peut-être pas forcément envie de la vendre à quelqu'un. Et c'est pareil sur le marché obligataire. On a vu les taux rebaisser assez fortement suite à ces rachats de short. Ces taux qui rebaissent peuvent jouer aussi sur des secteurs qui sont un petit peu plus liés au taux de financement. Et on a vu par exemple récemment aussi un rebond de quelques foncières, parce qu'évidemment ils sont très liés au taux.
Alors il y a quelques idées aussi qui sous-tendent ces marchés, quelques grandes problématiques, celle de l'inflation bien sûr, celle et leur corollaire, c'est-à-dire le travail des banques centrales. Et on avait eu un message qui commençait à être distillé par Jérôme Powell qui nous disait bon ben voilà, mon 75 points de base à chaque réunion c'est du passé, maintenant on va commencer à affiner un petit peu, on aura 50 points de base le 14 décembre. Est-ce que vous avez l'impression que ce schéma qui semblait s'être installé dans la tête des opérateurs, il est remis en cause, par exemple, par un chiffre comme l'emploi qui est tombé vendredi. Est-ce qu'en clair, ça met un peu du plomb dans l'aile dans le joli dessin que nous faisait Jerome Powell?
Les banques centrales ont toujours envie de scénarios doux, et c'est vrai que quand on entendait pendant toute la décennie 2010, on va essayer de rétablir une inflation qui avait du mal à s'installer juste en dessous de 2, mais pas vraiment en dépassant. En fait, les liquidités dans le système sont telles que c'est très difficile de faire des schémas doux. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec l'inflation, ça n'a pas été doux du tout. Et là, il y a quand même une petite...
On nous a dit que ce serait doux et temporaire, ça n'est ni doux ni temporaire.
Donc il y a un petit risque que la récession qu'on nous annonce douce ne soit pas si douce que ça, et vous avez des stratèges de marché qui vous disent que la récession va être telle, notamment aux États-Unis, qu'il est probable que les taux rebaissent fortement dès le deuxième semestre 2023 à des niveaux quasiment équivalents.
Malgré par exemple un marché de l'emploi, je suis désolé, c'est vrai que c'était vendredi, c'est un peu du passé pour les marchés, mais qui pose quand même la question, ce marché américain de l'emploi, il reste très tendu, très contraint, très dynamique, loin d'un contexte de récession, loin d'un contexte de difficulté, de montée du chômage, de baisse des salaires, enfin...
Le problème qu'ont à la fois l'Europe et les États-Unis, mais peut-être encore plus en Europe, c'est la dichotomie du marché de l'emploi. C'est qu'en fonction des métiers, en fonction des zones et en fonction des catégories sociales, vous avez des écarts d'emploi qui sont terribles. Même en France, où le chômage est quand même un peu plus haut qu'aux États-Unis, vous avez des métiers où les salaires à l'embauche ont bondi et où il est difficile de recruter. Et donc, mais à côté de ça, vous avez toute une catégorie de salariés qui ne trouvent toujours pas d'emploi et qui sont plutôt des emplois qu'on abandonne ou qu'on met de côté. Et ça, c'était lié aussi à la crise du Covid il y a 2 ans. C'est vrai qu'il y a toute une...
Vous nous dites, ça ne peut pas être doux du fait de la masse de liquidités, etc. Forcément, ce sera un petit peu de grandes embardées. Malgré tout, les banques centrales, c'est leur choix de vouloir asséner des coûts à cette conjoncture pour faire redescendre la pression, pour faire baisser la température. Vous prendrez l'image que vous voudrez. Mais jusqu'où on peut monter les taux, selon vous, sans que les dégâts soient trop importants? Est-ce qu'on arrive à mesurer ça?
Je pense qu'on n'arrive pas à le mesurer, pour être vraiment honnête.
On verra après qu'on a fait trop de dégâts.
C'est toujours comme ça que ça se passe. Et en Europe, en plus, comme on disait, il y a vraiment des situations très différentes entre les pays. Ce qu'on peut voir, en revanche, c'est à combien le déficit budgétaire... parce que le déficit budgétaire, il y a une partie qui est structurelle, qui sont les dépenses de l'État, puis il y a une autre partie qui sont les intérêts de la dette. Et ça, on peut le mesurer. C'est-à-dire que si on dit le coût moyen de la dette en Italie ou en France est de 5%, ça fait ça sur le déficit. Si vous avez un déficit budgétaire qui arrive sur des niveaux de... entre 5 et 10% par an, là, vous pouvez vous dire, ça devient critique. Quand on est en dessous de 5%, on peut se dire que c'est des choses qu'on a déjà vécues et ça peut se tenir, sachant que... Voilà. Donc, c'est un peu ce sujet-là des déficits budgétaires, plus que finalement, en Europe en tout cas, plus que l'investissement ou la difficulté de quelques entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même encore une différence forte entre les grosses entreprises, et on le voyait tout à l'heure avec l'interview du patron de Saint-Gobain, et les petites, et entre les entreprises qui ont un pricing power et celles qui n'en ont pas. Et le pricing power, ça ne veut pas forcément dire le type de métier. Il y a des entreprises qui sont sur des métiers très simples, mais qui ont une capacité à transférer les prix, soit parce que ce sont des biens pas trop chers, la margarine, le beurre, les produits alimentaires où on ne se rendra pas forcément compte si on paye un 20 ou un 40, ou des grosses, grosses marques. Et là, un exemple comme Coca-Cola ou McDonald's peuvent être des symboles.
L'un des indicateurs le plus évoqué, c'est bien évidemment l'inflation. Comment vous la sentez ? Vous avez des anticipations particulières ? Quels sont les chiffres un peu que vous retenez ? Est-ce que vous avez une certitude du rythme où l'inflation va baisser ? Et ou l'inverse, si ça baissait pas suffisamment, qu'est-ce qui pourrait se passer ?
Il y a quelque chose auquel il faut faire attention dans l'inflation, c'est qu'elle est souvent considérée en dehors de plein de choses.
On dit, c'est ça, on enlève tout ce qui gêne.
Avant, on disait l'inflation sans le pétrole, mais cette année, c'est que ça. C'est-à-dire que, et ça a provoqué ensuite tout le reste. Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises sont obligées de monter leurs prix à cause de l'énergie. Il y a le pétrole, il y a le gaz, et puis ensuite il y a les autres matières premières dans le bâtiment, par exemple. Donc finalement, il faut quand même regarder l'inflation au global et regarder qui elle touche et comment. Parce que les gouvernements... C'est difficile de croire qu'aujourd'hui, les banques centrales sont vraiment indépendantes des politiques des gouvernements, puisque le sujet, il est là. Il est sur la capacité des pays ou des foyers à vivre. Et aujourd'hui, les gouvernements essayent des boucliers énergétiques, etc. La banque centrale est obligée d'en tenir compte. Et aujourd'hui, elle a dit qu'elle réduisait sa politique accommodante, par exemple, mais en fait, elle ne le fait pas. Elle le fait vis-à-vis de l'Allemagne, qui est un petit peu moins qui est en situation un petit peu moins difficile que d'autres. Et par contre, elle a jamais acheté autant de dettes italiennes qu'aujourd'hui. Donc, l'inflation, faut la regarder au global. Faut aussi la regarder sur une période assez longue. Et finalement, on a souvent dit qu'il n'y avait pas d'inflation dans la décennie 2010. Il y en avait, mais pas sur les mêmes sujets. Il y en avait sur des biens qui ne sont pas dans les paniers courants des ménages, qui étaient l'immobilier, qui étaient les actifs. Les actifs avaient eu beaucoup d'inflation. Le bilan des sociétés, la dette avait eu une inflation aussi. C'était de l'investissement des investisseurs, notamment institutionnels. Donc il y avait une inflation. Si on regarde à la fin de la décennie prochaine sur 20 ans, on pourra dire finalement tout a augmenté à peu près pareil, puisqu'aujourd'hui vous avez d'un côté une déflation des actifs et une inflation forte qui n'avait pas eu lieu avant. En faisant une moyenne dans 30 ans, on verra que finalement peut-être que globalement c'était peut-être plus doux qu'on l'avait trouvé nous en regardant les
sujets. Là on a le nez dans le guidon et nécessairement c'est un petit peu douloureux. L'autre sujet que regardent pas mal les marchés a priori, c'est tout ce qui se passe en Chine. Alors vous allez me dire c'est parfois lié, mais il y a notamment les questions sanitaires. Et Pékin vient de décider que certains Covidés pourraient s'isoler chez eux, etc. C'est assez inédit du côté de la Chine. Est-ce que ça vous rassure sur les intentions chinoises ?
En fait, la Chine a une vision toujours un petit peu plus long terme que nous, alors souvent même beaucoup plus. Et donc là, ils avaient considéré qu'avoir un petit repli économique au profit de la politique, parce que ce n'est pas que du sanitaire, c'est aussi de la politique, avait un sens, et notamment dans la perspective des élections ou de la nomination. À un moment, il faut quand même avoir une économie qui permet de vivre. Et peut-être que là, il y a eu une bascule, c'est-à-dire qu'ils ont tenu 2 ans. Au bout de 2 ans, peut-être qu'ils se sont dit le repli
économique... On leur a dit aussi, parce que c'est vrai que dans tous les critères que semble regarder le pouvoir à Pékin, c'est le mécontentement social qui est le ciment de tout, enfin le contentement ou le mécontentement social. Et là, vraisemblablement, ça tenait plus.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la récession ou la difficulté des ménages à vivre était telle, parce qu'ils exportent quand même traditionnellement beaucoup et que là, ça s'était tout coupé, ou beaucoup coupé, qu'il fallait réouvrir un petit peu les vannes. Mais c'est sans doute... pas au détriment de la politique, donc il ne faut pas espérer que si ça pourrait recommencer dans 6 mois ou 1 an, et 2, ce sera sans doute très mesuré, juste pour maintenir à flot un certain pan de l'économie qui pourrait amener des recettes fiscales ou un petit peu de consommation.
Merci beaucoup Mathieu.
Merci.
Mathieu Bailly et Octo AM qui nous accompagnaient donc ce matin dans l'œil du stratège. Un petit coup d'œil sur le marché parisien qui a semblé opter pour une tendance un petit peu plus baissière. Oh, paniquez pas, hein, on est en baisse de 0,18%, donc c'est pas non plus fabuleux, sauf que depuis ce matin, on oscillait vraiment au collé au niveau de clôture d'hier soir. Le CAC est à 6684 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Joseph Chouefati. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Le président de Good West. Alors, une grande enquête réalisée par une dizaine de médias européens a révélé la semaine dernière que la moitié des fonds durables investissent en réalité dans les énergies fossiles. Mais est-ce qu'il existe des labels qui finalement nous donnent la vraie température du truc? Qu'est-ce qu'ils valent? Enfin voilà, comment prendre cette nouvelle à l'aune des labels?
Alors oui, bien sûr, il existe des labels, le label ISR, le label Greenfin, qui va être un peu plus exigeant, notamment qui va exclure en plus grande partie les énergies fossiles, label Finansol également, label France Relance, lancé pendant le Covid. Ces labels, ils peuvent répondre un peu plus aux exigences des épargnants par rapport aux articles 6, 8 et 9, dont l'article 9 qui était assez décrié par cette enquête du Monde, mais ils ont quand même leurs limites, ils n'ont quasiment pas d'exclusion pour le label ISR. Pour le label Greenfin, il y a une exclusion des énergies fossiles, mais il reste une poche de diversification qui n'a pas d'exigence des exclusions, donc difficile pour les épargnants de s'y retrouver. Il faut davantage de transparence. Nous, on analyse un peu plus de 200 fonds article 9 SFDR. Il y en a là seulement 16, donc moins de 10% qui répondent vraiment à nos critères. Donc malheureusement, non, aujourd'hui, un label ou
une... n'est pas suffisant.
Ne suffisent pas effectivement pour valider l'orientation durable d'un fonds.
Alors dites-nous-en un petit peu plus sur votre méthodologie justement chez GoodWest.
Alors on part de l'ensemble des fonds durables, ISR, article 8, article 9, et on applique une méthodologie en entonnoir avec trois filtres principaux. Le premier filtre, c'est l'exclusion complète des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, avec un seuil de tolérance à 0%.
Donc en clair, il ne doit pas y en avoir une miette.
Il ne doit pas y en avoir une miette, effectivement. Le seul cas dans lequel on peut l'accepter, c'est s'il reste un backup de charbon avec une fermeture programmée dans les 3 ans. Donc ça reste vraiment très très minoritaire. On a d'autres exclusions sectorielles plus classiques, comme l'armement, le tabac, le divertissement pour adultes, ou les entreprises qui veulent le pacte Nations Unies. Donc ça fait notre premier filtre. Deuxième filtre, là c'est assez intéressant, on analyse l'empreinte carbone des entreprises sur les 3 scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes et indirect, ça on le fait en partenariat avec le cabinet Carbon 4 Finance, et ça nous permet d'aligner nos portefeuilles avec l'accord de Paris. Là encore une fois, on a peu de fonds article 9 qui excluent complètement les énergies fossiles, on en a peu aussi qui respectent l'accord de Paris. Et enfin, le troisième filtre, c'est bien beau d'avoir des valeurs durables, mais c'est encore mieux d'accélérer leur transition, et donc on analyse la politique de vote des sociétés de gestion aux assemblées générales des actionnaires pour avoir des plans climat vraiment ambitieux.
Mais du coup, il y a cette méthode, effectivement, mais sinon, comment les investisseurs, les épargnants, ceux qui nous écoutent, peuvent sélectionner des fonds verts? Enfin, parce que chaque épargnant peut se dire, bon, allez, ça y est, je m'y mets, je mets mon épargne au service de cette transition, mais enfin, si c'est pour se faire flouer, c'est pas très...
C'est pas top, effectivement. Donc la première étape, déjà, ça va être de bien se renseigner, de comprendre ce que c'est que les labels, quelles sont leurs exclusions, ce que c'est que la réglementation SFDR 8 et 9. Article 8, par exemple, ça va être que la promotion de critères ISR. Et l'article 9, c'est vraiment un engagement. La deuxième étape, ensuite, ça va être de regarder voilà, quelles sont les exclusions. Donc ça, c'est pas très compliqué, il suffit de récupérer le DC du fonds. Et tout en haut, on va avoir généralement les exclusions qui vont être indiquées. Une exclusion du charbon, ce n'est pas une exclusion de l'ensemble des énergies fossiles. Ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Ensuite, on peut regarder si le fonds est compatible avec l'accord de Paris. Généralement, quand il est compatible avec l'accord de Paris, le fonds, la société de gestion, va en faire la promotion. On va avoir cette mention PAB, Paris Aligned Benchmark. Alors, encore une fois, il faut faire attention. Parfois, il y a juste un alignement sur les émissions directes et pas sur les émissions indirectes. On peut avoir quelques surprises en creusant. Ce qui compte vraiment, c'est que désormais, les sociétés d'investissement donnent davantage de transparence aux épargnants. C'est notamment le cas, par exemple, de certains ETF qui ont l'avantage de publier la liste des valeurs. Et donc là, on peut aller vérifier ligne par ligne qu'on n'a pas de sociétés qui nous surprennent.
Mais ces fonds, est-ce qu'ils performent ou est-ce qu'ils vont performer?
Alors, la réponse, c'est oui, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir. Nous, on a, sur notre portefeuille le plus choisi par nos épargnants, qui est le portefeuille audacieux, sur les 10 dernières années, on a un rendement annualisé qui est de 7,6%, en prenant en compte l'année 2022. Si on prend le benchmark Cantalis allocation offensive monde, on a une performance annualisée qui est de 5,1%. Et ça, ça n'inclut pas les frais de l'assurance ou du courtier, contrairement aux 7,6% dont je vous parlais. Mmh. Donc, on est sur des entreprises qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, qui vont plus facilement remporter des appels d'offres, qui vont éviter des risques de scandale, qui vont attirer plus facilement les talents. Et donc, non, on est sur une tendance long terme.
Donc, ça permet de verdir son portefeuille. Mais quand on est épargnant, ça veut dire qu'il va falloir que chaque fois qu'on veut investir, on prenne le DC, qu'on l'épluche dans tous les sens, qu'on le comprenne bien. C'est un peu exigeant, on va dire. Il n'y a pas d'autre solution.
Alors, effectivement, c'est assez compliqué. Après, on peut faire confiance à différents acteurs qui existent. Aujourd'hui, c'est possible de se constituer un patrimoine vert. Il y a différentes solutions. Le crowdfunding, c'est une des plus anciennes solutions. On a des acteurs comme Lita.co, Mimosa qui existent. Sur l'immobilier également, on va avoir Novaxia, Iroko, ou sur l'assurance vie, Goodvest. Donc aujourd'hui, c'est possible de construire un patrimoine vert et diversifié, et sans non plus y passer des heures, en faisant confiance aux acteurs qui sont reconnus dans le secteur.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, tous ces responsables de labels, quand ils vous entendent, comme ce matin, gentiment torpiller leur boutique, entre guillemets, pour ramer tous dans le même sens, malgré tout? Ils se disent, bah oui, ils veulent tirer chez Goodvest la couverture à eux, ou au contraire, vous avez envie de leur dire, bah allez-y, piquez notre méthode, il n'y a pas de souci?
Bah alors oui, on serait ravis de la partager. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que la finance verte aille plus vite. On est, même si, d'une certaine manière, cet article du Monde nous a mis en valeur, il y a aussi une perte de confiance. Donc les acteurs financiers doivent se réinventer, donner de la transparence aux épargnants. Sinon, les épargnants, en plus de faire un peu moins confiance à la finance, ils vont faire moins confiance à la finance verte. Et donc là, on a du pain sur la planche.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir ce matin. Donc, Joseph Chouefati pour Goodvest. Dans un instant, un petit coup d'œil sur le marché. On va notamment en prendre le pouls technique grâce à Romain Daubry. Et puis, vous n'oubliez pas les replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées. Et puis, à suivre, encore pas mal d'expertises, notamment avec Sandrine Kilissi pour Pictet Wealth Management. Et puis, en fin d'émission, c'est Sarah Salman qui répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr. A tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, il nous reste une demi-heure à passer ensemble. On vous accompagne jusqu'à midi comme tous les jours. Et à 11h30, vous le savez, on a rendez-vous avec un trader qui suit la séance pour nous tout au long de la matinée. C'est Romain Daubry, depuis la cellule Info d'Expert de Boursiac. Rebonjour, Romain. Bon, tout à l'heure, quand on s'est parlé, c'était il y a une heure, hein, pour le match des traders avec Jean-Louis Cussac. Et le marché, il faisait du surplace. Il cherchait finalement sa route. Pour le moment, il semble l'avoir trouvé et c'est à la baisse. Ça vous semble définitif, Romain ?
Définitif, je ne sais pas. En tout cas, pas très méchant, probablement. C'est le sens de ce qu'on vous donnait. On se positionnait plutôt à la vente contre 705, 710 pour aller chercher une petite consolidation. Alors, consolidation, ça ne veut pas dire nécessairement baisse marquée, mais on a rompu effectivement des canaux haussiers. On est passé dans des figures d'épuisement sur des indices et on bute contre des niveaux de résistance majeurs. Donc, qu'on digère un peu la hausse tonitruante qu'on a connue depuis fin septembre, mi-octobre, c'est un peu normal. On a été assez patient, mais cette fois-ci, on se positionne un peu plus baissier effectivement contre cette zone. Donc, qu'on avait fixé comme zone d'alerte 6685, 6710. Et effectivement, qu'on le travaille sur le futur ou avec du levier, on vise un petit retracement. Alors, pas très marqué. Le premier niveau à surveiller, c'est 6608, si on s'installe vraiment sous 6685. Et puis en dessous, c'est 6549, 6570, qui sont des niveaux assez charnières sur le futur CAC 40. Globalement, en fait, le marché profite un peu du manque de drivers cette semaine. Il y a moins de publications macroéconomiques majeures en dehors des prix à la production vendredi, et on attend le rendez-vous de la Fed des 13 et 14 décembre prochains. Donc le marché en profite pour faire une petite pause. C'est plus de l'épuisement que du retournement comme on l'évoquait. Sur le S&P, on a atteint cette zone cible, le S&P 500, la zone 4058, 4132. On est allé pile à l'intérieur, 4100 points autour, et c'est une ligne de tendance baissière qui était active depuis janvier janvier dernier. Donc la déborder comme ça après le rebond qu'on a connu, ça paraît peu probable. Donc que l'indice, pour l'instant, prenne un peu d'élan, pourquoi pas. Et donc aller chercher une zone 3907, 3956. Pour prendre un peu d'élan, c'était assez plausible. Sous ce niveau, on irait chercher 3810. Là, ce serait plus gênant de rompre 3810 sur le S&P, sur le CAC. Donc, je vous le disais, c'est un peu la même chose. 6650 aux alentours paraît un niveau de retracement légitime et raisonnable sur lequel on regardera comment se comporte le marché. Sinon, on a toujours quelques secteurs un peu plus forts liés aux énergies et matières premières. L'assurance est toujours forte. Et puis, on se laisse porter, nous, sur la Chine, pour lequel on a pris une petite allocation, encore une fois, pour toute la complexité que représente l'investissement en Chine, mais on l'a fait sous forme de panier de valeurs et on accompagne ce mouvement pour l'instant. Sinon, pour ce qui est des valeurs, on a allégé une partie de notre bénéfice, on a pris une partie de notre bénéfice sur Katana à 6,24 et on continue à accompagner un peu l'extension et les bons résultats. Si on cherche d'autres actifs, tant qu'on est au-dessus de 22,20 sur l'argent, on l'accompagne pour cibler une zone entre 24,40 et 25,30, aux alentours de 24,90. Donc voilà, il y a des arbitrages à faire dans ce sens-là. Rien de méchant, probablement une consolidation pour l'instant, mais effectivement, un bien un peu plus baissier, même s'il n'y a pas de pression baissière forte, juste où on voit que les volumes sont plus faibles dans les mouvements de baisse, donc c'est pour l'instant une consolidation en bon ordre.
Merci beaucoup Romain pour cette lecture graphique et technique de la séance en cours à Paris. Le CAC 40 qui donc a opté pour le moment pour une tendance baissière. On perd 0,5%, 6663 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Les coulisses du patrimoine qui accueillent cette semaine Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine. Pour l'ingénierie patrimoniale de Pictet Wealth Management, comment profiter de la cession de son entreprise pour donner du sens à son argent ? En clair, on va être philanthrope ce matin, c'est ça ?
Exactement, c'est la bonne période.
Que peut-on dire justement de cette philanthropie ? Comment ça s'intègre, une cession dans un projet philanthropique ou l'inverse ?
En fait, c'est vrai que la cession d'une entreprise, c'est un moment qui est important dans la vie d'un entrepreneur et c'est souvent l'occasion d'avoir une réflexion vraiment peser sur la transmission de son patrimoine. Alors on sait que généralement on s'interroge sur la protection du conjoint, la transmission anticipée aux enfants, mais la matérialisation de cette fortune qui jusqu'à présent était assez virtuelle, souvent va motiver certains entrepreneurs à rendre au bien commun et de fait à développer un projet philanthropique.
Alors, pour développer un sujet philanthropique, il faut en avoir l'idée. Il faut le faire quoi ? Avant d'avoir cédé ? Ou au contraire, on récupère le pognon, passez-moi l'expression, et puis après on réfléchit. Dans quel sens faut faire les choses, selon vous ?
Eh bien, en fait, la pertinence, ça va être d'anticiper les choses, comme toujours, c'est le maître mot en matière de cession d'entreprise. Et là, en fait, on va retrouver la même mécanique que celle qu'on connaît quand on transmet à des enfants dans le cadre d'une cession d'entreprise. Vous savez, la fameuse donation avant cession. Là, on va faire la même chose. En réalité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donner une partie des titres à une structure philanthropique. Ce qui est intéressant, c'est que ici, il n'y aura pas d'impôt de plus-value à l'occasion de ce transfert de propriété. L'organisme philanthropique, en principe, ne paye pas de droits de donation, il en est exonéré. Et ensuite, bien lui qui est récipiendaire des titres va les céder en franchise d'impôt de plus-value. Donc là, on a une neutralité totale, en fait, de cette réorganisation, finalement, d'un patrimoine professionnel en un patrimoine philanthropique.
Ça veut dire que, pour être très concret, ça veut dire qu'on va payer moins de droits en faisant ça dans ce sens-là. C'est
exactement
aussi des intérêts.
Exactement.
Quelles sont justement les différentes structures considérées comme philanthropiques et comment on choisit finalement, comment on fait son choix dans le panel que vous allez nous présenter ?
En fait, il y a trois grandes structures qui s'offrent à un entrepreneur qui veut réaliser une telle opération. On a ce qui est assez connu, la fondation reconnue d'utilité publique. À côté de ça, on a la fondation abritée. Et enfin, on a le fonds de dotation. En fait, c'est toujours pareil. Le choix entre ces trois structures va dépendre des objectifs de notre entrepreneur. Donc, s'il souhaite conserver la gouvernance de son outil, en conserver le contrôle, nécessairement, il ne va pas choisir une fondation reconnue d'utilité publique qui est quasi un peu sous la tutelle de l'État, qui est rigide dans sa mise en place, qui manque de souplesse. À l'inverse, donc il ira plutôt vers le fonds de dotation, qui est totalement souple, qu'il va gouverner entièrement, il va pouvoir prendre toutes les décisions. En revanche, c'est vrai que la fondation reconnue d'utilité publique, elle va avoir l'intérêt de la pérennité. Elle va survivre véritablement en tant que telle, par exemple, au décès de ses fondateurs. Mmh. Mais elle nécessite d'importants investissements financiers. Contrairement, par exemple, à la fondation abritée, autre cas, qui, elle, va être sous l'égide d'une fondation reconnue d'utilité publique qui va permettre à l'entrepreneur, de ne pas avoir à s'occuper de toutes les problématiques administratives, juridiques et financières. Ça, c'est la fondation qui s'en occupe. Et lui, il va pouvoir être au cœur de son projet. Le fonds de dotation, lui, va concerner plus le philanthrope entrepreneur. Parce que pour le coup, en réalité, son fonds de dotation, il va devoir s'en occuper de A à Z, d'un point de vue opérationnel, juridique, financier. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que l'on souhaite faire.
Bon.
Et du temps que l'on souhaite y consacrer.
Donc, ça veut dire qu'entre ces trois solutions, c'est un peu un choix, je vais le résumer, administratif.
Pas seulement, c'est aussi un choix de temps.
D'accord.
Parce que voilà, le fonds de dotation, par exemple, c'est un côté, on parle de philentrepreneur quelque part, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être prendre la place de l'entreprise.
Mais ce que je voulais dire par là, Sandrine, c'est que ça ne dépend pas de l'initiative qu'on veut développer, du choix de ce qu'on veut soutenir. Là, pour le coup, c'est pour ça que je qualifiais ça d'administratif.
Tout à fait. Effectivement, que ce soit une fondation reconnue d'utilité publique, que ce soit une fondation abritée ou un fonds de dotation.
On peut faire ce qu'on veut une fois qu'on a la structure.
Exactement.
Comment on choisit finalement les initiatives, du coup?
Alors, c'est vrai que les initiatives qui ont besoin de soutien, il y en a beaucoup. On va avoir l'éducation, on va avoir la recherche médicale, l'environnement, les droits humains. Mais souvent, on comprend bien, la personne qui va développer un projet, ça va l'être par rapport souvent à son vécu personnel ou à l'histoire familiale. Une chose est sûre, c'est que c'est jamais simple de savoir par quel bout le prendre. Et le conseil que l'on peut donner, c'est de surtout ne pas hésiter d'aller à la rencontre d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique qui sont porteurs d'un projet similaire à ce que l'on veut mettre en place pour avoir un retour d'expérience. Ça, c'est vraiment important.
Bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat et faire la question qui fâche, mais vous nous avez rappelé à un moment dans la démonstration que la structure n'était pas imposable dans tout le processus. Est-ce que l'entrepreneur qui s'inscrit dans cette démarche philanthropique, on le rappelle, donc en fait au service de chacun.
Exactement.
Il bénéficie de davantage d'incitations fiscales à faire cette opération-là. Enfin bon, voilà. En clair, est-ce qu'il veut lui retirer des pépettes, quoi?
En théorie, oui. En théorie, oui, parce que nous avons une réduction d'impôt. Lorsqu'on fait un don de cette manière, on bénéficie d'une réduction de son impôt sur le revenu. Le problème, c'est que on a des règles de plafonnement de cette réduction d'impôt qui en limite considérablement l'avantage dans ce cadre particulier de l'entrepreneur qui fait un don. Pourquoi ? Parce que le don va être important. De quoi s'agit-il ? En réalité, la réduction d'impôt, en fait, elle représente 66% du montant des dons que je fais. Sauf que ce montant de don est plafonné à 20% du revenu imposable. Et le revenu imposable visé ici, ce sont les sommes qui sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Or, souvent, évidemment, notre entrepreneur, il ne va pas tout donner à la fondation. Il va conserver des titres qu'il va céder lui-même. Et lui, sa plus-value, en principe, elle va être soumise au prélèvement forfaitaire unique, à 34% maximum. Et donc là, du coup, cette plus-value, sauf à ce qu'il opte pour le barème, mais du coup, cette plus-value-là, elle ne rentrera pas dans le quantum des 20%. Donc, à moins d'avoir des revenus fonciers très importants par ailleurs ou des revenus professionnels importants, en réalité, on va être très limité par cette règle du plafonnement. Alors, bien sûr, tous les dons excédentaires, tout ce qui va excéder ce qu'on aura utilisé, on va pouvoir le reporter sur les 5 années, mais c'est toujours pareil, on sera limité dans les 20% du revenu imposable. Mais bon...
Il y a quand même une petite cerise sur le gâteau.
C'est vrai, mais ce que l'on constate, c'est que la première motivation d'un entrepreneur, c'est pas celle-ci.
Ah mais non, mais je suis toujours là pour poser la question qui fâche. Merci Sandrine. Sandrine Kélissi, l'ingénierie patrimoniale de Pictet Wealth Management qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, lui, a opté pour le moment pour une tendance un petit peu plus marquée. Et hélas, elle est dans le rouge. On perd 0,47%, 6 665 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, ce matin, comme promis, c'est Sarah Salman. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Avocate régulièrement à nos côtés. On rappelle le nom de votre cabinet, Sarah Salman et avocat. N'hésitez pas à nous écrire si vous le souhaitez. C'est notre adresse mail qui vous attend jour après jour. BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr. Et chaque jour, nos experts sont bien évidemment là pour vous répondre. On commence avec cette question, Sarah, que vous envoie Claire. Claire souhaite divorcer et ils ont un bien immobilier et 3 enfants. Alors, on met les enfants avec le bien immobilier. Peut-on le faire à l'amiable avec un avocat commun?
C'est vrai qu'on met les enfants avec le bien immobilier, c'est vrai.
Alors, j'aurais commencé par 3 enfants et un bien immobilier.
On met par ordre de préférence.
Oui, voilà, elle préfère son bien immobilier. Je suis désolée.
Alors, il faut savoir qu'il existe d'un côté, Claire, les divorces contentieux avec le divorce pour faute, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal. De l'autre côté, on a le divorce amiable par consentement mutuel contresigné par acte d'avocat. L'avantage, Cédric, c'est qu'il n'est pas nécessaire, sauf exception, de passer devant le juge aux affaires familiales. Donc, quel avantage? Ça va plus vite, on n'est pas soumis aux aléas judiciaires du calendrier des audiences. Alors, un avocat commun, quel avantage? On mutualise les frais. Sauf que ce n'est plus possible depuis 2017.
Et pourquoi?
Parce que je pense que c'était par rapport au conflit d'intérêts éventuel. D'ailleurs, la règle est assez stricte. C'est 2 avocats appartenant à 2 structures juridiques distinctes. Par exemple, on ne peut pas avoir un associé et son collaborateur, ou 2 associés. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant parce que, par exemple, il y a une dame qui est venue me voir pas plus tard que la semaine dernière qui m'a dit « Voilà, on va divorcer. » Je dis « Qui est le conseil de votre époux ?» Elle me dit « Ah, mais en fait, il n'en a pas pris. On pensait qu'on pouvait tous les deux vous prendre. » Donc, chacun paye son avocat. Maintenant.
Bon.
Donc voilà. Ensuite, pour le bien immobilier, il faudra savoir. En fait, le divorce, il faut être d'accord. Pour divorcer, c'est un prérequis. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, ça peut être les enfants. Sont-ils mineurs? Donc, enfin, est-ce qu'ils sont mineurs? Si oui, quelle est la résidence? Quelle est la pension alimentaire fixée? Est-ce qu'il y a un partage des dépenses exceptionnelles? Voilà, en fait, finalement, il faut calibrer toutes les conséquences. Le bien immobilier, puisqu'il est plus important que les enfants, je plaisante, est-ce qu'il faut se rapprocher d'un... Enfin, est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le vend pas? Donc, l'intervention d'un notaire. Et en fait, il faut être d'accord sur tous les aspects du divorce. Est-ce qu'il y a prestations compensatoires? Si oui, combien? Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui arrivent en me disant « On est d'accord sur tout ». Vous grattez un peu, ouais, ils sont d'accord sur presque tout. Concrètement, la procédure, comment fonctionne-t-elle? Il faut se mettre d'accord, qu'une convention de divorce soit rédigée, qu'elle soit adressée avec un délai de réflexion. On la signe, on l'envoie au notaire. Le notaire procède à l'enregistrement de la convention et adresse ensuite une attestation aux époux, avant la transcription en marge des actes d'état civil. Donc concrètement, c'est une procédure qui peut être assez rapide, mais il faut encore être d'accord sur tout. Donc le bien immobilier, les enfants, ce n'est qu'un aspect visible, il y a aussi tout le reste. Par exemple, le nom de famille, est-ce qu'on le conserve ou pas si on l'avait pris à titre d'usage?
Bon, ça veut dire que il faut être ouvert, c'est-à-dire une fois qu'on s'est dit on était d'accord sur tout et qu'on arrive chez un professionnel du droit, il faut accepter qu'il mette son nez dans l'espèce de truc qu'on a, le petit bout de papier qu'on a rédigé un soir.
Est-ce qu'il y a des aspects où on n'y a pas forcément pensé? Par exemple, la part fiscale, est-ce qu'on y a forcément pensé? Non. Donc en fait, souvent les gens arrivent en disant c'est bon, on est d'accord sur tout. Et en fait, il suffit qu'il y ait un aspect sur lequel on est en désaccord pour qu'on bascule en divorce contentieux. Non. Alors parfois, les négociations durent un peu de temps. C'est vrai que moi, j'ai des divorces que j'ai commencé l'année dernière et on se dit, on se laisse quand même une chance de poursuivre à l'amiable et finalement, ça coince et ça peut coincer pour une affaire de 100 euros de pension alimentaire.
Ouais. c'est ballot.
Ça coûte souvent moins cher à l'amiable, hein, je le précise quand même.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on n'a pas l'aléa judiciaire, donc, les audiences.
On a dit, donc il n'y a pas tout ça, mais il y a quand même les frais d'avocat.
Oui.
Donc multiplié chacun, par deux, puisque maintenant...
Alors chacun est libre de fixer ses honoraires comme il le souhaite. Donc ce n'est pas parce qu'un avocat a dit 2000 que l'autre dira 2000.
Oui, on est d'accord. Voilà. Bon, mais chacun ses frais d'avocat, voilà. Et les frais de il y a des frais de notaire, j'imagine.
Alors vous avez raison de le demander, il y a des frais de notaire et il faut se mettre d'accord sur qui les paye. Mais pour le notaire, je parlais franchement, c'est pas le dossier du siècle puisque le prix est de 49,44 € TTC. Alors je précise, ça a même été baissé.
Vous avez réussi à faire un prix qui est quasiment pas divisible par deux, c'est formidable.
Si, justement si, j'ai d'ailleurs eu un dossier où il fallait le diviser en deux. Alors il y en a un qui était avec ses pièces, l'autre qui était avec son chèque. Bon, il faut se mettre d'accord là-dessus, parce que moi j'ai dit, on ne peut plus faire des divorces, on galère pour 20 euros en fait, ouais, c'est pas ça. Possible. Et il faut aussi que le notaire soit préalablement désigné dans la convention. Quand il y a un bien immobilier, souvent le notaire fait les deux, ça va quand même plus vite. Mais pour le notaire, voilà, c'est pas le dossier du siècle, 49,44 €.
Eh bien dis donc, voilà donc quelques idées à avoir en tête quand on veut divorcer, effectivement, à l'amiable avec un avocat.
Et c'est mieux
il
de
ne sera donc pas commun.
Pas commun, et c'est mieux à l'amiable, tout simplement, parce que c'est plus apaisé. Quand on passe devant le juge, il y a toujours une personne qui n'est pas contente du délibéré, finalement. Et dans l'intérêt des enfants, c'est mieux aussi.
C'est mieux quand on s'entend.
Mais toujours. C'est vrai que pendant la signature, parfois, règne un silence religieux.
Eva envisage avec son mari un divorce par consentement mutuel. Est-ce que cela peut être réglé en un mois? Et elle ajoute, elle a l'air d'être pressée, Eva. Combien de temps après pourra-t-elle se remarier?
Eva, c'est la situation dans laquelle elle veut très très vite divorcer pour se remarier, puisque la polygamie, on le sait, en France, n'est pas autorisée. Alors un mois, ça me paraît un peu ambitieux. Je pense, Eva, que vous avez vu cela sur des sites internet qui promettent à des prix défiant toute concurrence des délais très accélérés. Mais un mois, je vais vous expliquer pourquoi. Ça me semble irréaliste parce
short,
que déjà...
comme on dit.
Short, exactement Cédric. Ça me semble irréaliste parce que déjà, il faut réunir les documents. Par exemple, il faut extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois. Il faut le commander. Si on est né à l'étranger, il faut le commander à Nantes. Donc on est soumis à l'aléa des délais à la mairie. Donc admettons, Eva, vous avez été pragmatique. Vous avez tous les documents, votre époux aussi. Il faut se mettre d'accord. Donc la négociation, admettons, vous êtes d'accord réellement sur tout. Mais il faut que cette convention soit adressée en lettre recommandée avec accusé de réception ou alors lettre recommandée avec accusé de réception électronique, c'est ce que j'utilise le plus par souci écologique. Ensuite, il y a un délai de réflexion de 15 jours. Donc en fait, déjà, vous avez les 15 jours sur un mois.
Oui.
Et parfois, il y a des gens qui me disent « Finalement, je voulais changer juste un tout petit truc. »
Et là, c'est reparti.
Et on fait repartir le délai. Donc en fait, vous avez déjà les 15 jours. Ensuite, on signe la convention. Les 4 protagonistes, les 2 avocats et les 2 époux. On l'envoie au notaire. Le notaire enregistre pour la forte somme de 49,44 € TTC. Ensuite, on envoie l'attestation, enfin le notaire envoie l'attestation aux avocats qui ensuite procèdent à la transcription de l'attestation sur les actes d'état civil. À partir de là, vous pourrez vous remarier. Mais bon, tant qu'il n'y a pas la transcription, c'est absolument pas possible.
Donc le délai le plus court pour répondre à Eva.
Alors pour répondre franchement à la question, ça dépend de la capacité à réunir les documents. Parce qu'il y a des personnes, ils me disent, je suis super pressée. Ah oui, alors envoyez, voilà la liste des documents. Et derrière, 3 semaines après, j'ai toujours pas l'acte de naissance. Donc, et c'est pas à l'avocat de le commander, c'est aux époux. Donc en fait, il y a des personnes qui traînent malgré elles et ça fait tout retarder. Ensuite, il faut se mettre d'accord, parce que là, vous dites que vous êtes, enfin, je suppose, d'accord sur tout, mais en fait, parfois, ouais, c'est pas le cas.
On est d'accord.
Juste qui peut accélérer, c'est le recommandé électronique. Ouais. On gagne 3 jours.
Ouais, on gagne quelques jours. Vous nous avez parlé de transcrire tout ça sur les actes d'état civil.
Ah ben, c'est nécessaire pour divorcer.
Il y a aussi les questions fiscales, non? Enfin.
Ah, pour les impôts?
Oui.
Oui, tout à fait. Faut envoyer, là encore, aux impôts avec un chèque. On n'arrête pas, on en distribue dans tous les sens. Alors, admettons, on va prendre un cas classique. 100 masses actives à partager, 125 euros aux impôts. Il y a aussi les conséquences qui en découlent. Chacun aura sa feuille d'impôt séparée avec les conséquences fiscales qui en découlent. Mais là aussi, il faut que ce soit prévu dans la convention de divorce qui se chargera d'envoyer au centre des impôts compétent. Mais ça, il faut le faire. Évidemment, il y a toutes ces démarches et il ne faut pas en oublier. Mais en tout cas, Eva...
Bon, donc un mois, ouais, c'est un peu court. Hein.
Mais un mois, c'est très court. Mmh. Et il y a des sites internet qui proposent des packs low cost à 300 euros TTC, ce qui est vraiment anormalement bas, avec des délais anormalement courts. Eh bien, ne voilà, si c'est trop beau, c'est peut-être pas vrai.
Et donc, par contre, derrière, dès que tout ça est réglé, signé, machin, le lendemain, elle peut se...
Ah oui, il n'y a pas de délai. Alors, le lendemain, elle peut se marier, il faut quand même faire les démarches pour se marier. Ouais. Vous voyez, les 10 jours, enfin, la publication, etc. Mais oui, il n'y a pas de délai, ce qu'on appelait avant le délai de viduité. Ça, il n'y a plus.
Il n'y a plus. Question de Sylvie, 74 ans, et pour faciliter les choses, elle envisage de prendre un funeral planner. Elle se demande si c'est une bonne idée. Vous connaissez les wedding planners.
Mais alors justement, un wedding planner, un organisateur de mariage, je pense qu'on connaît. Un funeral planner, c'est la même chose.
Mais qui pleure.
Mais un petit peu moins gai, puisqu'on organise Cédric.
Ses funérailles.
Oui, voilà. Alors, est-ce que c'est bien à 74 ans de le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? 74 ans.
Vous n'avez pas la date, remarquez.
Non, mais si on est très malade.
Oui.
On peut l'envisager. Alors, généralement, ce sont les héritiers, parce qu'ils ont une charge émotionnelle, des tâches administratives à gérer, qui, dans la précipitation, prennent un funeral planner. Qu'est-ce que ça permet de faire? D'avoir, je ne sais pas, du violon à son enterrement? Ça permet une cérémonie sur mesure. Par exemple, vous ne voulez pas de votre voisine qui vous a dérangé à passer l'aspirateur à 8h du matin. Elle pourra être reconduite. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je ne sais pas si c'est bien pour votre morale, mais ça permet d'anticiper les choses. Et ça permet, enfin, ce que je vous conseille de faire, Sylvie, c'est de bien relire le contrat. Est-ce qu'il y a une clause résolutoire? Est-ce que les conditions vous conviennent? Là, vous avez le temps de faire un benchmark, un comparatif. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Oui, ça, c'est chacun qui voit.
Oui, mais le funeral planner, j'en ai beaucoup plus entendu parler depuis le confinement, finalement. Avant, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Et depuis le confinement...
Et qu'est-ce que le confinement a changé, selon vous?
Bah, les gens anticipent plus. Ah ouais. Parce qu'ils ont eu le temps, je pense, de se retrouver et de se dire, je ne sais pas, peut-être de prendre un petit peu plus de recul.
Ils s'ennuyaient chez eux, ils ont réfléchi, quoi.
Comment je vais planifier ma mort?
Bon.
Bon. Ce n'est pas les questions les plus joyeuses. Hein.
Non, ce n'est pas les questions les plus joyeuses. On préfère les wedding planners. Question de Catherine, qui anticipe sa succession. Et pour cela, elle a rédigé son testament. Mais elle souhaite quelque chose de particulier. Elle voudrait être enterrée avec son chat. Et elle se demande comment faire.
Alors déjà, ce que je vais dire, et je le dis souvent sur ce plateau, c'est bien d'anticiper sa succession.
Certes.
Là, Catherine, vous avez fait un testament holographe. Vous l'avez daté, signé, enfin j'espère, et qu'il y a les modalités essentielles. Mais votre question qui est singulière...
On rappelle, hein, soit il faut qu'il soit fait à la main, pas sur Word, à la main.
Sauf si c'est un testament mystique.
Oui, oui.
Ça, c'est encore autre
soit
chose.
Soit devant notaire.
Testament authentique. Et là, c'est plus sûr parce qu'au moins, on est sûr qu'il n'y ait pas de disposition qui n'aille pas, en fait. Mais là, admettons que tout va bien. Être enterré avec son chat. Le chat, juridiquement à l'origine, c'est un bien meuble dans le code Napoléon de 1804. Ensuite,
donc a priori, on en fait ce qu'on veut.
Oui, mais il y a une évolution sémantique. Non, Cédric.
Plaisante.
Une évolution sémantique en 2015. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Néanmoins, on l'avait dit, il me semble, il y a peut-être un an, les animaux ne peuvent pas hériter. Mais peuvent-ils pour autant être enterrés avec leur maître? Je précise, il faut que le chat soit mort, quand même.
Oui.
La réponse est non, pas en France. C'est possible, par exemple, dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Angleterre. Mais en France, c'est pas possible. Et c'est pas une question qui est fondamentalement novatrice, puisque en 1959, on avait déjà eu la jurisprudence Félix, où ça s'était posé pour un chien ou pour un chat, je ne sais plus. Mais la réponse avait été non, ce n'est absolument pas possible.
Bon. Mais on a lu dans la presse qu'il y avait des propositions de loi qui traînaient en ce sens.
Alors,
non,
en février 2022, un groupe de 27 ou 28 députés avait fait une proposition de loi en ce sens. Et la semaine dernière, un député du groupe, il me semble, Les Républicains, a fait une proposition de loi en ce sens. Alors, certains députés ont estimé qu'on avait plus important à gérer. D'autres députés, au contraire, vous semblez partager leur avis.
Pensez-vous.
D'autres ont estimé, au contraire, que c'était tout à fait pertinent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des personnes âgées, leur seul lien, c'est leurs animaux.
Bien sûr.
Donc, voilà, on verra ce que ça donne pour la suite. Est-ce que, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un alignement pour la suite avec d'autres pays voisins. Mais bon, après, est-ce que nos députés iront en ce sens?
Mais donc, il faut que l'animal soit mort avant.
Ah, on ne va peut-être pas tuer l'animal pour l'enterrer avec.
Bah, ça se faisait chez les pharaons, mais...
On a un peu évolué, non?
Oui, on a un peu évolué, a priori, surtout pour le droit des animaux. Question d'Augustin. Il ne parle plus à sa mère depuis 10 ans et il se demande s'il peut refuser son héritage.
Alors oui, mais il ne peut pas le refuser par anticipation. Il faut attendre, entre guillemets, le décès.
D'accord.
Alors, une fois qu'il y a le décès, on a 4 mois pour exercer ce qu'on appelle l'option successorale. 3 choix. Première option, on accepte purement et simplement la succession, à savoir la masse active, ce que possède la mère d'Augustin, la masse passive, les dettes qui existent et qui peuvent être prouvées. Deuxième option, on accepte à concurrence de l'actif net. On n'accepte pas les dettes qui sont supérieures à la masse active. Troisième option, on refuse la succession. Mais généralement, Cédric, on refuse une succession quand il n'y a que des dettes. Oui. Quel intérêt d'accepter une succession de dettes ? Aucun.
Oui,
mais là, j'ai l'impression que c'est pour des motifs d'ordre affectif.
Oui, oui, ça a l'air d'être
en
affectif.
Réalité, il n'y aura pas besoin de préciser le motif. Ça veut dire que...
Il dit « j'accepte pas », point, même s'il y a du pognon, il dit « j'en veux pas ».
Alors généralement, quand il y a plusieurs millions, les gens réfléchissent. On va pas,
vous croyez que les gens sont vénales à ce point-là ?
Vous savez, au moment d'une succession, on voit vraiment la vraie nature des gens qui se révèle.
Cela étant dit, s'ils refusent...
Non, juste comment on fait ? On adresse au tribunal judiciaire un formulaire, parce qu'il faut quand même le dire. Ah oui. Ou alors, on se joint au notaire, on lui dit, voilà, le notaire en charge de la succession. Bon. Je vous écoute.
Du coup, s'il refuse, je suis désolé, je vais être scabreux jusqu'au bout.
J'ai l'habitude.
Ça veut dire qu'il n'aura pas à payer les frais d'obsèques, tout ci, tout ça ?
Ah bah non, c'est pas parce qu'on refuse une succession qu'on est exempté des frais d'obsèques. Mais généralement, en pratique, quand un parent est fâché avec son enfant depuis une, voire deux, voire trois décennies, il s'arrange pour régler cette question en amont.
Alors, il peut pas dire j'accepte l'héritage à due proportion de frais d'obsèques.
Non, généralement, après, bon, je pense que ce serait mieux que le parent demande à un autre enfant ou s'en charge avant. Je pense
avec
que
un funeral planeur.
Non, le funeral planeur, c'est autre chose. C'est l'organisation de la cérémonie stricto sensu.
Bon,
si vous voulez du violon, Cédric.
Je faisais le jeu de mots. Merci beaucoup.
Merci
d'être
à vous,
passé
Cédric.
Répondre aux questions que nous envoient nos auditeurs. N'hésitez pas à écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr et chaque jour, on vous répond. Dans un instant, c'est 60 minutes business et on retrouve donc avec plaisir Sandra Gondouin.
Bonjour Cédric.
Que nous avez-vous concocté aujourd'hui ?
On va parler de retraite, on va parler de salaire. Vous savez que l'augmentation moyenne des salaires devrait dépasser les 4% en 2023 dans 7 grandes économies de la planète. Chiffre du cabinet Willis Towers Watson. On va en parler avec Jean-Marc Daniel et avec Antoine Eulard. On parlera aussi du gaz russe, notre dépendance avec Mathieu Pechberti et cette étude du Shift Project qui est assez pessimiste. Et puis, est-ce que vous savez ce que c'est que le biochar ?
Le biochar ?
Eh bien oui, le biochar, c'est du charbon végétal qui permet réenrichir les sols. Le GIEC en parle beaucoup et on va recevoir SLB qui est une société qui produit du biochar dans notre émission.
Voilà. Eh bien, vous saurez tout sur le biochar d'ici quelques minutes avec 60 minutes business. Dans un instant donc, à suivre, le CAC est à 6679 points. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.